Et soyez les bienvenus ce dimanche matin sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie, le magazine Tendance Confidence. En cette période de carême, en cette période aussi où nous parlons de confinement, d'autres professions continuent leurs activités, comme le personnel soignant que je tiens à saluer au début de cette émission. Et puisque le sous-titre de cette émission est au cœur de la vie, au cœur de la vie de la fragilité, eh bien j'ai invité aujourd'hui Martin Stephens qui est philosophe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous ai rencontré suite à la parution de l'un de vos livres que vous avez coécrit avec Lou Bémont de Senneville. Le titre de l'ouvrage est « Si c'était la fin d'un monde », un livre paru aux éditions Bayard. Lorsque nous regardons ce que nous vivons actuellement dans le monde, et plus particulièrement en France, concernant le Covid-19, pensez-vous que nous vivions la fin d'un monde, Martin Stephens ?
C'est-à-dire que après avoir écrit le petit traité de la joie, j'avais donné à penser une joie comme ça qui pourrait devenir la basse continue de notre vie, sa note dominante. Et au fond, le reproche que parfois l'on me faisait, c'est de me dire mais qu'en est-il de ceux qui sont dans la colère, de ceux qui sont dans le désarroi, de ceux qui sont dans la peur? Peuvent-ils goûter à cette joie dont tu proposes un itinéraire? Eh bien, du coup, je me suis dit, je vais lui donner à cette joie l'itinéraire le plus périlleux, c'est-à-dire comment vivre dans la joie, dans le bonheur, malgré et sans rien se cacher, eh bien, de notre monde, dans ce qu'il suscite de désarroi, de peur et de colère.
Quel regard portez-vous sur notre société, première question, et si nous en jugeons d'après les informations, il y aurait de quoi déprimer. Est-ce que nos contemporains savent encore être heureux des petites choses, à votre avis ?
Heureux des petites choses, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas trop le choix, parce que dès qu'on regarde les grandes choses, on se trouve avec des tout petits bras pour embrasser un monde qui nous échappe désormais complètement, et avec ce côté un peu pervers, puisque vous parliez des informations, que nous voyons un monde tout à fait terrible, dont nous savons tout, hein, jusque dans des détails absolument atroces parfois. Donc nous sommes un peu omniscients, comme on peut imaginer que Dieu l'est, il sait tout. Bon, mais nous sommes au contraire de cette omniscience parfaitement impuissants. Et je trouve que les informations, le journal de 20 heures, nous met dans une posture qui fait que nous sommes transformés en des dieux, mais des dieux ratés. Nous savons tout, mais nous ne pouvons rien, ou pratiquement rien. Et tant et si bien que le canapé et son moelleux devient le banc des accusés qui nous accusent. Tu es complice, parce que témoin inactif, d'un monde qui va mal. Et du coup, on se replie sur les petites choses, mais de façon un peu frénétique et angoissée, quoi. On se dit, mais bon, tant que je peux profiter de ce qui m'est, de ce que j'ai sur la table, j'en profite, mais ce n'est pas l'attitude sereine de quelqu'un qui se sent réconcilié parce qu'il connaît sa place dans l'univers.
La vie comme un cadeau qui nous réserve parfois quelques surprises. Il y a des hauts, il y a des bas. Justement, par rapport à cette vie qui est la nôtre, l'homme serait-il une marionnette dont la vie serait reprise au bon vouloir d'un magicien, d'un marionnettiste? Et le destin existe-t-il selon vous? Et sommes-nous libres s'il existe un destin?
Eh bien, les hommes ont longtemps pensé qu'il y avait un destin, et on comprend bien pourquoi, hein, quand le réel vient vous rattraper, vous êtes en train de construire quelque chose et tout à coup, par une maladie, par une catastrophe, tout vous est enlevé, on a l'impression qu'effectivement nous sommes dans les mains d'un dieu qui joue avec nous. Et donc, au fond, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, un peu comme Œdipe essaye d'échapper à l'oracle. Le fait même de vouloir y échapper fait qu'on va tomber dedans de façon encore plus humiliante pour l'homme. Donc cette perspective du destin, oui, ça parle beaucoup. Moi, j'ai tendance à croire que l'homme n'a pas un destin, mais une destinée. C'est-à-dire que précisément, il peut discerner dans sa vie ce qu'il appelle à devenir lui-même et à vivre cette vie comme ayant un sens.
D'ailleurs, dans le sens commun, il y a des phrases comme ça que l'on dit au cours d'un repas, en prenant un café ou autre chose, ou au travail, où on se dit, de toute façon, à quoi bon ? À quoi bon ? D'ailleurs, il y a l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux qui parle d'une nouvelle maladie dont seraient atteints les contemporains, l'aquabonite. Donc, à chaque fois, on dit à quoi bon ? De toute façon, après moi, après nous, la fin du monde.
Ouais, tout à fait, c'est ça. C'était Bernanos aussi qui disait que c'était le chant le plus terrible, le chant qui crie comme on peut imaginer un corbeau, quoi. À quoi bon, à quoi bon, bon. Et c'est pas un appel effectivement qui nous met debout. C'est au contraire la tentation de rester chaudement sous les draps. Je crois que tout l'enjeu pour l'homme, c'est de transformer l'absurde en gratuité, la vanité en gratuité. Au fond, peut-être que sur notre terre, on n'aura pas de réponse définitive à la question pourquoi. On n'aura pas de réponse définitive, mais pour peu qu'on ose croire que le jeu en vaut la chandelle, eh bien, ce qui nous paraît vain, absurde, peut se révéler gratuit. Alors, quelle est la différence entre l'absurdité et la gratuité? Eh bien, quelqu'un qui ne comprendrait pas cette différence, ce serait quelqu'un qui, rencontrant un ami qui se promène, lui dirait, eh bien, tu vas où? Alors, il dirait, ben écoute, je vais nulle part, je marche pour marcher, je me promène. Alors il dirait, mais c'est absurde, moi quand je sors de chez moi, c'est pour aller quelque part. Bon, eh bien non, ça n'est pas absurde. Se promener, c'est gratuit, c'est comme écouter de la musique, c'est comme aimer, hein. Au fond, il n'y a aucune utilité économique à aimer plutôt qu'à ne pas aimer. Et pourtant, cet amour qui n'a pas de pourquoi est gratuit. Et je crois que ce monde qui se défait, ce monde qui n'est plus soumis à la manipulation de l'homme, parce que on voit bien qu'il est fragile, eh bien nous invite à avoir un rapport beaucoup plus gratuit à lui.
Continuons de voyager avec vous, Martin Stephens. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. En cette période de carême et en cette période de confinement, peut-être retrouvons-nous le goût de la lecture. Un auteur qui vous plaît particulièrement, c'est Antoine de Saint-Exupéry, et grâce à lui, vous continuez de poser sur la vie un regard d'enfant, c'est-à-dire.
Oui, Saint-Exupéry, c'est justement cette fragile beauté de toute chose, et c'est un regard d'enfant posé sur le monde. Mais attention, il y a dans le regard d'enfant quelque chose de beaucoup plus profond qu'on ne pense. D'abord, quand on voit les dessins animés actuels pour les enfants, enfin, je trouve personnellement que c'est parfois un peu idiot et que c'est fait par des adultes qui veulent faire rire d'autres adultes. Bon, alors que quand on écoute les enfants, quand on écoute très franchement leur question, on voit que l'enfant est capable de tenir en même temps une grande naïveté sur les choses, une grande joie, donc de tenir ça dans une main, et en même temps une grande lucidité. L'enfant accueille le réel tel qu'il est. Et mon fils de 5 ans me pose des questions sur la mort, et puis un coup il me dit, mais moi c'est pas la mort qui me fait peur, c'est la mort de tout le monde, c'est-à-dire c'est la fin du monde. Bon. Et puis on voit que ce qu'il veut, c'est une réponse franche, qu'il est capable d'accueillir cette perspective, voilà, et que il ne va pas anticiper dans des angoisses, pas nécessairement, quoi. Donc voilà, Saint-Exupéry, ce que j'aime, c'est ce regard d'enfant sur le monde.
Martin Stephens, philosophe, auteur, invité de cette émission Tendance Confidence au cœur de ce carême 2020. Nous allons continuer de tourner les pages de vos différents livres, mais en même temps tourner les pages de votre vie en tentant d'aller au cœur de ce que vous voulez bien nous dire et de ce qui donne sens à votre vie au moment où nous parlons aussi de ce mot de confinement, respiration musicale. Nous vous retrouvons dans quelques instants sur Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Et suite de votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h avec aujourd'hui un professeur agrégé en philosophie, Martin Stephens. Pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission et qui ne vous connaissent pas encore, qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même?
Je suis Lorrain, donc je viens de l'autre bout. Et voilà, je suis professeur de philosophie, père de 3 enfants, et j'ai la joie d'accompagner dans un itinéraire passionnant et pas toujours facile les étudiants vers des concours exigeants. Et ce qui fait que il m'est donné de vivre avec eux, moi et puis mon équipe de professeurs, des vrais moments de partage et d'endurance.
Vous écrivez, Martin Stephens, le bonheur n'est donc pas ce qu'on obtient pour être heureux. Le bonheur, c'est notre vie telle qu'elle est. Et sachant qu'elle ne peut pas être tout, le bonheur, c'est la conscience qu'on en a. Peut-être un petit commentaire pour les auditeurs de Tendance Ouest.
Oui, vivre, c'est perdre. C'est d'abord beaucoup recevoir, mais finalement, on reçoit dans un temps où on ne se rend pas compte qu'on reçoit. Quand on est bébé, on reçoit énormément, on reçoit beaucoup de soins. Bon, mais en même temps, on est une petite surface où tout le monde dépose ses bisous, dépose son soin, et on ne s'en rend pas vraiment compte. Bon, ça nous permet de grandir. On a surtout conscience de perdre. On a surtout conscience de voilà de perdre sa jeunesse. On a conscience de perdre les siens, de pouvoir les perdre, ce qui est aussi une épreuve.
Et d'ailleurs, depuis le cordon ombilical qui nous a reliés à notre mère, la vie est une succession de passages.
Oui, c'est fou, hein. C'est vrai que on n'arrête pas de larguer les amarres, mais on les largue souvent pas tout à fait volontairement, parce que quand on doit perdre, oui, tel ami, ou perdre l'innocence, hein, la vie étant tragique, eh bien, finalement, on peut aussi inverser la chose et se dire que on ne perd que parce que l'on reçoit d'abord. Au fond, on ne peut perdre la santé qu'à partir du moment où on est en bonne santé. On peut perdre un ami, et dans la douleur d'un deuil par exemple, que parce que d'abord il nous a été donné de l'aimer. Et je crois que la grande intelligence, qui est une intelligence du cœur, c'est finalement de savoir lire à même la perte ce qui nous a d'abord été donné. Au fond, même de savoir goûter ce qui nous est donné sans attendre de l'avoir perdu.
Et donc justement, quelle présence donner au monde, si je pense que tout est fini, quelle présence donner à l'absence même ?
Eh bien justement, pour accueillir la présence de quelqu'un comme un présent, comme un don, il faut lui ouvrir les bras. Mais il faut lui ouvrir les bras, et j'ai envie de dire aussi lui ouvrir les bras pour le laisser partir. Finalement, on ne possède bien que quand on se refuse à consommer, à consommer quelqu'un, à consommer une chose. Et donc, dans tout acte d'accueil, il y a cette liberté qu'on laisse à l'autre de partir. Et au fond, ce monde-là qui nous échappe, qui n'est plus disponible à nos souhaits, parce qu'on voit bien que la maîtrise que l'homme a sur lui provoque telle ou telle catastrophe. Eh bien, ce monde-là qui ne nous est plus disponible, du moins on peut s'y rendre disponible. Et au fond, comme je le dis dans le livre, il se met à briller par son absence. La perspective même de sa disparition nous permet de jeter un regard sur lui qui n'est plus un regard qui calcule en vue de posséder, en vue de prendre, mais un regard qui laisse le monde se révéler dans sa beauté et dans sa gratuité.
En ouvrant le livre dont vous êtes l'auteur, Martin Stephens, paru aux éditions Salvator, qu'est-ce que vous avez envie de nous lire comme passage à offrir aux auditeurs de Tendance Ouest ?
Alors j'ouvre une page, c'est celle de la page 69, qui peut-être est une bonne photographie pour entrer dans le livre. Le monde se donne, dans l'horizon même de sa perte, d'une façon nouvelle. Par son absence, il se met à briller. Tout à coup libéré de notre souci de pouvoir jamais le conquérir, ni même le retenir, le monde apparaît soudain dans le miracle de sa simple présence. L'ayant rendu, par la conscience de sa perte, à la contingence de son état et à la fragilité de son éclat, nous recevons de lui toute sa saveur. Nous sommes la main fluide du peintre dont l'empressement, à la surface de la toile, semble vouloir sauver le paysage ou le visage de l'oubli qui avale toute chose. Ceci a été qui aurait pu ne pas être, semble nous murmurer toute belle peinture. Ce monde eût pu ne pas être, mais il est. Cela déjà est quelque chose qui offre prise à notre émerveillement.
Je continue avec cette question. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers, s'il le paie de sa vie? Notre monde est un peu fou, pour ne pas perdre une chose, il la consomme, y compris les personnes.
Ah oui, on est dans un monde extrêmement consommateur, consumériste, on dit, et c'est bien parce que on entend presque consommer. Consommer une chose, vous voyez bien, avec votre portion de frites, une fois que vous l'avez consommée, il ne reste plus que la barquette vide. Donc consommer une chose, c'est se l'assimiler, c'est-à-dire la rendre similaire à soi. Mais il faut aussi avoir un autre rapport aux choses. Et justement, un rapport à ces choses qui ne sont pas abîmées par le contact qu'on a avec elles.
Alors, si vous enseignez la philosophie, Martin Stephen, vous êtes également passionné par la spiritualité. Plutôt que de parler de la toute-puissance de Dieu, lorsqu'on voit la fragilité dont l'être humain peut être atteint, vous préférez parler de la toute-présence de Dieu, c'est-à-dire ?
Oui, alors effectivement, parce que si on va au bout de cette peur-là qui s'est rappelée à nous, au fond, ce dont on a peur, c'est pas tant de mourir. Ce dont on a peur, c'est de se dire « mais toute cette vie n'aurait été qu'une belle farce ». Bon, donc finalement, pour n'importe qui, même pour l'incroyant, il a peur qu'on se moque de lui. Il a peur qu'on se moque de lui. Et ce serait ça un Dieu pervers, ce serait un Dieu qui nous a donné ici-bas 1000 indices que la vie vaut le coup d'être vécue. On le sait bien puisqu'on a des amis, on le sait bien puisque on a des parents qui nous aiment ou qui essayent de nous aimer. On le sait bien que la vie vaut d'être vécue. Mais si tous ces indices n'ont été que des promesses qui nous ont été données que pour n'être pas tenues, on a envie de dire « mais on se moque de moi ».
Mais pour réfléchir à cette promesse dont vous parlez, Martin Stephens, est-ce qu'il ne faut pas se mettre aussi à l'école du silence, ce que nous vivons actuellement dans un carême un peu particulier en 2020, avec ces différents confinements?
Oui, c'est un silence, mais c'est un silence bruissant. J'aime bien comparer deux situations, et pour comparer l'homme qui ne croit pas en Dieu et l'homme qui croit en Dieu. J'ai envie de dire, c'est la même chose. Les deux ont affaire la plupart du temps dans leur vie au silence. Mais vous avez sans doute déjà perçu la différence qu'il y a quand la maison est vide. C'est un silence un peu angoissant. Parfois, on met même la télé ou la musique pour ne pas entendre ce silence. Bon. Et le silence qui règne dans une pièce où quelqu'un dort. Ça peut être un enfant qui fait la sieste. Bon, eh bien, dans un cas, il y a un silence oppressant, le silence de l'absence de vie. Dans l'autre cas, une qualité de silence tout à fait agréable, qui est le silence de celui qui veille la présence de quelqu'un. Et je crois que celui qui croit en Dieu, c'est cette seconde qualité de silence, un silence plein d'une présence très discrète, d'une présence qui se propose sans s'imposer, donc qui laisse libre, mais une présence tout de même.
Une présence de Dieu qui serait similaire à la présence d'un bébé.
Ma foi va à la foi chrétienne, à cette foi qui confesse un Dieu qui a été jusqu'à se faire bébé. Hein, on dit se faire homme, mais on oublie parfois que pour se faire homme d'abord, eh bien, il faut être bébé. Et quand on voit effectivement un bébé qui dort, c'est une expérience du recueillement, et au sens vrai du terme, c'est-à-dire on se cueille à nouveau. Tout à coup, nous est donné l'essentiel. Nos gestes deviennent plus respectueux de ce silence qu'on ne veut pas abîmer, notre présence se fait plus discrète et effectivement ça nous met en état de contemplation, un bébé qui dort.
Merci Martin Stephens pour votre présence dans cette émission Tendance Confidence, merci à vous.
Merci beaucoup.
Et je rappelle le titre de ce livre que vous avez coécrit avec Lou Bémond de Senneville, paru aux éditions Bayard. Le titre est « Si c'était la fin d'un monde ». C'est paru fin 2019. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Auparavant, c'est votre billet spirituel qui, en ce temps de carême, vous est proposé par l'abbé Philippe Hérondel du diocèse du Havre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités. Passez une belle semaine.
Podcast by Tendance Ouest.